Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Spontanément, il faut bien le reconnaître, on pense assez peu à un enjeu de carême dont je voudrais vous entretenir ce soir, c'est-à-dire l'acquisition de la joie. C'est vrai que cela peut paraître assez paradoxal que l'un des objectifs du carême soit d'obtenir une joie profonde. Quand on considère certaines phrases de la liturgie du mercredi des cendres, « Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière », quand on considère l'épître, hein, « Revenez à moi dans le jeûne, les larmes et les lamentations », quand on envisage la couleur violette qui va désormais nous accompagner jusqu'à Pâques, ou l'absence de fleurs sur l'autel, ou que sais-je, l'absence de l'Alléluia par exemple, quand on sait que le carême est l'occasion tant redoutée de se serrer la ceinture sur bien des points, on peut trouver assez étonnant qu'en guise d'introduction du carême, je vous parle de joie. Et pourtant, je le redis, le carême doit nous conduire à la joie. Et j'irai même plus loin, si le carême ne nous acheminait pas à la joie, nous aurions perdu notre temps. Et le carême n'aurait pas été un bon carême, quels que soient les efforts que nous aurions pu faire tout au long de ce carême. Il faut nous entendre sur un point tout de même. Lorsque je parle de joie, il faut savoir de quelle joie je veux parler. Il ne s'agit évidemment pas de cette excitation superficielle qui est obtenue à grand renfort d'artifice, de cette poussée éphémère façon Club Med ou façon soirée déguisée. Évidemment, nous ne sommes pas dans cette perspective-là, nous autres chrétiens, ou du moins nous ne devrions pas. Il faut bien reconnaître que souvent nous sombrons dans ces petites joies faciles. Je veux parler de cette joie profonde, cette joie subtile, et surtout cette joie qui est absolument inoxydable, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous pouvons vivre et quelles que soient les adversités qu'il faille combattre. En un mot, je veux parler de cette joie dont le Seigneur lui-même nous dit que nul ne saura nous la ravir. C'est quand même intéressant que le Seigneur parle lui-même de joie. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire que le carême est le contexte le plus favorable à l'acquisition de la joie chrétienne? Eh bien, pendant cette sainte quarantaine, comme on l'appelle, on s'extrait un temps de tous les miroirs aux alouettes, de tous les faux-semblants, de tous les masques dont nous pouvons nous revêtir à longueur de temps pour plonger notre regard sur ce que nous sommes et ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire que nous considérons l'éminent cadeau que Dieu a bien voulu nous faire, lui qui, comme dit saint Paul, nous a prédestinés avant tous les siècles à être pour lui des fils adoptifs. Voilà ce que nous devons faire pendant le carême, et plus largement toute notre vie chrétienne, considérer dans notre personne ce don infini de Dieu qui veut faire de nous pas seulement des créatures, des serviteurs, mais bien des amis. Il veut nous diviniser. Vous connaissez la phrase, cette exclamation, je crois que c'est à saint Léon le Grand qu'on la doit, « Chrétien, connaît quelle est ta dignité ». Voilà ce qu'il faut faire, au-delà de toutes les dignités des droits de l'homme et autres catégories de dignité qu'on peut étaler sous nos yeux et revendiquer à longueur de manifestation. Voilà la seule dignité qui compte, et voilà ce qui doit faire notre joie. Nous sommes fils adoptifs du Père, c'est-à-dire frères cadets et sœurs cadettes de Jésus-Christ. Il ne s'agit donc pas d'une sorte d'introspection psychologique qui nous mène tantôt à l'exaltation de soi parce qu'on a repéré un ou deux talents par-ci par-là. Il ne s'agit pas non plus d'une introspection psychologique qui mènerait au gibet, par pendaison, par suicide, parce que voyant les failles de notre nature, on se désespérerait. Il s'agit de retirer les ridicules feuilles qu'Adam et Ève et toute génération accumulent sur notre pauvre personne, enlever toutes ces feuilles pour regarder l'éminent cadeau que Dieu nous a fait, encore une fois, par le baptême, en faisant de nous ses fils adoptifs, en restaurant l'image de Dieu en nous. Par le baptême, on a une graine qui a été semée en nous, nous avons été configurés à Jésus-Christ. Et nous avons été configurés de manière irrévocable. C'est ça qui doit faire notre joie. Vous voyez, nous sommes fils adoptifs du Père, mais rien ne pourra nous éloigner de lui, rien ne pourra nous débaptiser, du moins rien en dehors de nous. Nous avons cette capacité malheureuse de pouvoir nous damner, nous séparer, et en dépit de cette marque indélébile, eh bien de finir en enfer, lorsque des baptisés en enfer, c'est-à-dire des gens qui ont été configurés au Fils de Dieu lui-même, il y en a beaucoup. Mais rien en dehors de nous ne peut nous pousser, ne peut nous arracher à cette configuration que nous avons gagnée par le baptême. Et c'est ça qui doit être notre joie, source de joie, voyez. Tel l'enfant prodigue, quelles que soient les bêtises qu'a accompli l'enfant prodigue, il a un droit auprès de son père. Et aussitôt qu'il demande pardon, aussitôt qu'il montre un peu de contrition, revenant à la maison, il est restauré dans la plénitude de ses droits, spontanément, en un claquement de doigts par le père. Voilà ce qui distingue le chrétien du païen, mes frères. Nous avons, parce que le fils prodigue, c'est un chrétien. Nous avons, à la différence des païens qui n'ont pas la marque du Fils éternel en eux, nous avons ce droit, avec beaucoup de guillemets, mais Dieu a voulu ainsi que nous ayons ce droit sur son cœur, parce que nous sommes fils par le baptême. Et comme le carême consiste à écarter toute distraction pour se concentrer sur la méditation de ce mystère-là, alors nous pouvons acquérir une plus grande joie que pendant le reste de l'année. Mais je crois qu'il y a encore plus encore dans le carême. Il y a un autre motif pour lequel nous devons ressentir de la joie et une joie puissante. Et ça va être peut-être un peu alambiqué, mais je pense que vous allez saisir. Essayez de faire bref. Par le baptême, encore une fois, nous avons été configurés à Jésus-Christ. C'est-à-dire que quelque chose en nous a profondément changé. Nous avons été reformatés. Nous avons reçu, saint Thomas d'Aquin dit, nous avons reçu comme une deuxième nature. Et cette deuxième nature, elle possède ses exigences propres. Cette deuxième nature, elle ne peut plus se contenter des activités de la nature humaine du tout venant, de cette nature humaine que nous avions reçue de nos parents en naissant. Non, cette deuxième nature, cette nature adoptive que nous avons reçue par la configuration à Jésus-Christ, elle appelle nécessairement quelque chose. Elle appelle que nous quittions les mœurs du monde et que nous entrions dans les mœurs du Fils éternel. Vous voyez, nous avons été configurés au Fils éternel. Désormais, nous ne pourrons plus nous comporter comme le monde se comporte. Si nous le faisions, jamais nous n'accéderions à la joie. Le carême étant cette période pendant laquelle nous, encore une fois, nous essayons de nous séparer des mœurs du monde pour adhérer davantage aux mœurs du Fils de Dieu lui-même, eh bien, il résulte nécessairement de cela une grande joie. Pendant le carême, nous prenons le temps, nous prenons le soin de nous livrer aux activités pour lesquelles, enfin, qui sont appelées par cette deuxième nature qui nous a été donnée par la configuration baptismale au Fils éternel du Père. Je ne sais pas si c'est trop compliqué, mais je pense que c'est source vraiment d'une méditation assez féconde. Voyez, et ça, c'est pour nous une source de joie, parce que notre nature reformatée, enfin, trouve à s'épanouir, trouve les bonnes activités. Et quelles sont ces activités? C'est très simple, ce sont les mêmes activités que celles que Jésus-Christ a pris le soin de faire lors de sa venue sur terre. Que faisait-il? Où mettait-il sa joie, précisément? Mais dans le renoncement. Lui qui était de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il gagnait à Dieu, mais il prit la condition de serviteur. Notre nature christo-conformée par le baptême, conformée à Jésus-Christ, ne peut pas s'épanouir par d'autres activités que ces activités de renoncement. Ce serait totalement faux que de croire que nous serons joyeux, que vraiment nous accéderons à une joie profonde, en dehors de ce chemin qu'a suivi Jésus-Christ, qui est un chemin de renoncement. Par le baptême, et certains trouveront ça peut-être un peu dommage parce qu'ils n'ont pas eu le choix lorsqu'ils étaient enfants, mais c'est un fait, c'est comme ça, et c'est comme ça pour l'éternité. Par le baptême, nous avons été configurés à Jésus-Christ, faits pour servir. Et pendant le carême, que faisons-nous sinon essayer tant soit peu de sortir un peu de soi pour servir le prochain? Et donc que le carême, parce qu'il nous permet de considérer ce trésor que nous avons reçu en nous, cette configuration au Christ, encore une fois, et parce que le carême est ce temps au cours duquel nous essayons de servir, de nous décentrer de nous-mêmes, eh bien, nécessairement, ce carême nous fait accéder à la joie. Nous n'avons donc, dans ces conditions, et je terminerai là, nous n'avons aucune angoisse à avoir, nous n'avons aucune raison de redouter le carême. Parce que, reconnaissons-le, nous voyons toujours arriver le carême avec un peu d'angoisse, un peu de joie, parce que nous savons que nous allons essayer d'être chrétiens pendant 6 semaines, un peu plus intensément que le reste de l'année, et en même temps, nous avons cette angoisse parce qu'il faudra bien renoncer concrètement à quelques plaisirs. Mais nous n'avons, si nous suivons les perspectives que je viens de déployer devant vous, aucune peur à avoir, et au contraire, nous devons y aller avec zèle, ne retenons absolument rien, allons-y, servons, parce que plus nous servons, et plus nous épanouissons notre nature, et plus nous accédons à la vraie joie. Voilà, c'est, je crois, ce que perspective assez haute, et en même temps assez réjouissante, justement, qui doit commander aux décisions que nous devons prendre, là, incessamment, quant aux petits efforts de carême. Vous savez, cette petite feuille de soin là, dont je vous parle au début de l'Avent, au début du carême, voilà. Tous ces petits efforts-là, ils doivent être vus non pas comme des efforts de spartiate, c'est-à-dire qui permettraient d'acquérir la perfection à la force du poignet, mais comme une espèce de déprise de soi qui permet, dans cette condition de serviteur, d'épanouir notre deuxième nature. Je crois que la Vierge Marie a le secret de de tout ce que je viens de vous dire, elle en a vécu à la perfection, alors confions-nous à elle, à Notre-Dame du Calvaire, la Vierge Stabat, elle saura nous guider pour que notre joie soit plénière dans quelques semaines. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.